La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des femmes et des hommes qui ont des idées, qui innovent et qui bâtissent déjà le monde de demain. Ici, c'est simple, on trouve les solutions et elles sont françaises. Ça s'appelle La France bouge et ensemble, on en parle avec Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous. On le surnomme le sculpteur du chocolat. En ce lundi de Pâques, on va vous faire découvrir les innovations française dans ce secteur du chocolat. Bah oui, on va rêver un peu, ça fait du bien en ce lundi de Pâques. Notre invité du jour, le sculpteur artisan, artiste, comment on pourrait dire encore mieux, le chocolatier Patrick Roger est notre invité jusqu'à 14h.
À la une en effet, le chocolat et dans notre pays, il y a beaucoup de fans de chocolat qui se réunissent tiens, pour en parler. Et de quoi parlons-nous quand on a pour passion le chocolat? Eh bien, on aura la réponse avec la présidente de l'association Chocolatez-vous qui est avec nous dans notre studio.
Alors, son nom va vous faire retourner en enfant. C'est une vraie boisson nostalgique. Cacolac, c'est notre saga du jour dans cette émission du lundi de Pâques.
Chaque jour dans la France bouge, nous écoutons le projet d'une entrepreneur ou d'un entrepreneur qui se lance aujourd'hui. Avec notre partenaire CCI France, nous avons retenu Crocola, une start-up qui fait découvrir le chocolat aux enfants. Le pitch va-t-il nous convaincre? J'en suis sûre. Hein. Réponse 13h45.
Et puis en fin d'émission, demain au travail, comment aller au bout d'un projet en groupe quand on est en télétravail? Eh bien, on va passer un coup de fil chez Idemia. Ils ont trouvé, semble-t-il, la solution.
Eh oui, c'est ça. La France bouge. C'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Alors, elle bouge. Elle est peut-être un peu plus lourde en ce lundi de Pâques après avoir mangé sûrement pas mal de chocolat ce week-end avec notamment les fameuses chasses aux œufs pour ceux qui ont l'habitude d'en profiter. On parle donc chocolat dans cette émission, Elisabeth.
Bonjour Patrick Roger.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes artiste, sculpteur, chocolatier français. Vous avez 11 boutiques, une cinquantaine de salariés et vous fabriquez, je crois, 14 millions de chocolat, c'est ça?
Environ, oui, 14 millions.
C'est un lundi de Pâques bien particulier. On dit de vous que vous êtes la star de la sculpture du chocolat. Comment ça va?
Bah, ça va pas trop mal, c'est plutôt bien. On a la chance cette année au moins par rapport à l'année dernière, donc on est reparti et ça c'est vraiment très très bien. Parce que économiquement, on sort d'une saison complexe. Pour nous, on a perdu un stade de France, 85 000 personnes. Et l'enjeu est quand même très très fort pour l'économie. Ce qui compte, évidemment, c'est nos fournisseurs, c'est nos employés. Et comment on arrive à se retourner, et entre autres par l'e-shop aussi, on a pas mal sauvé l'année. Beaucoup de B2B aussi, donc ça, c'est avec les entreprises.
Donc, une année compliquée, mais ouais, vous avez trouvé des solutions.
On y croit, ouais.
Quand je disais tout à l'heure que vous êtes sculpteur, artisan, artiste, chocolatier, c'est lequel qualificatif que vous préférez?
Ah, bah, l'esthétique. Je crois que ce qui compte le plus, c'est d'abord le beau. Ça, c'est évident. Quand c'est beau, c'est quasiment bon. On peut prendre le sujet d'une tarte à la maison qui est faite par la maman, par sa femme, n'importe. Et déjà, c'est bon parce que c'est beau en général. Et peut-être que c'est ça, le vrai sujet. Les fondamentaux, c'est peut-être l'esthétique.
Alors, comment vous travaillez? Parce qu'emmenez-nous dans les coulisses de votre métier. Vous êtes l'un de nos plus grands chocolatiers, l'un de nos chocolatiers les plus reconnus dans le monde. Vous êtes présent partout dans le monde. C'est quoi les coulisses de Patrick Roger? C'est quoi le petit truc de Patrick Roger?
Ben, au départ, c'était simplement un garçon de la campagne. Une chance extraordinaire d'avoir un territoire, un terroir. Et puis, sans le savoir, ça s'est construit naturellement. J'avais sans doute un don inné pour le goût. L'esthétique va venir après. Je ne connaissais absolument rien. Et puis, petit à petit, tout se construit. Et puis, on commence à comprendre. Mais quand tu n'as pas été à l'école, c'est beaucoup plus long. C'est un cursus plus difficile, sans doute. Mais par contre, c'est vraiment solide. Surtout en termes d'économie, en termes de gestion aussi. Il faut être très, très fort en gestion.
Vous le revendiquez régulièrement, ce garçon de la campagne dont vous parlez. Pourquoi?
Ben, je sors vraiment de la campagne. Maintenant, je suis plutôt urbain. La campagne, je la connais vraiment.
En tout cas, vos boutiques sont à Paris pour l'instant.
Oui, complètement. Parce que j'avais besoin aussi de cette culture qu'il y avait à Paris, Paris, la France. On a une telle culture qui est vraiment... C'est tellement important. Donc, on avait besoin de cette rencontre. C'est exactement comme le cubisme. Quand Picasso naît avec Henri Laurence, si la bourgeoisie ne s'élève pas en même temps, on ne peut pas faire passer un mouvement. Et c'est grâce grâce à ça que ça se passe super bien. Quoi. J'ai besoin, entre autres, des Parisiens, puisqu'on est à Paris, mais de la France et du monde. Mmh.
Comment on imagine une collection ? Par exemple, là, pour ces chocolats de Pâques cette année, c'est un peu les chocolats de la redécouverte. Hein. C'était la réouverture, vous avez eu le droit d'ouvrir, puisque vous avez été commerce essentiel lors de ce nouveau confinement. Comment vous avez préparé cette période de Pâques ?
Alors moi je viens du sport mécanique surtout, donc on est toujours en avance forcément. Quand on prépare Pâques 2021, on est déjà sur 2022, 2023.
C'est-à-dire que là vous êtes déjà en train de travailler à ce que vous proposerez à vos clients pour Pâques 2023.
C'est super facile, c'est mon travail d'être en avance et puis de créer tout simplement. Alors ça veut dire quoi de créer
C'est comme des collections de mode, j'ai l'impression.
Ouais, c'est très haute couture, c'est évident. Et surtout, c'est le fait de travailler. Dès que tu travailles, c'est là où on va sortir les projets. À partir du moment où...
C'est vrai que la comparaison qu'Elisabeth vient de faire avec la haute couture est intéressante. C'est-à-dire qu'il y a des tendances dans la haute couture. Alors là, quelles sont les tendances 2021 du chocolat ?
C'est sans doute la grosse différence. Moi, j'aime pas le mot collection. Par contre, je suis très haute couture. Ça, c'est évident. Je suis arrivé à la haute couture beaucoup plus tard, en rencontrant évidemment Jean-Paul Gaultier, Stella McCartney, ainsi de suite, quoi. Mais c'est ce qui compte. C'est surtout de réinventer le beurre. Par exemple, on ne sait pas faire. On réinvente pas le beurre, c'est comme la cuisine. Donc c'est très très difficile si on voit des innovations.
Vous nous avez emmené quelques-unes de vos innovations.
On a un tout petit peu de couleur.
Ouais, on dirait des très belles billes. Non, mais c'est vrai, ça ressemble à des billes avec lesquelles on jouait pendant notre enfance. Des petites balles, orange, noire et verte. C'est absolument sublime. Il y a quoi à l'intérieur ? C'est que du chocolat ?
Là, c'est des caramels qui sont à l'intérieur. Un caramel avec une fleur de sel, simplement, par exemple. Un citron vert et menthe poivrée. Et puis, on a un petit caramel au thé fumé aussi. Et donc ça, effectivement, donc ça va se construire en le faisant. Et moi, je suis quelqu'un qui ne cherche pas. Donc, c'est super facile. C'est bizarre de dire ça.
C'est-à-dire quoi ? Qui ne cherche pas ? C'est-à-dire que l'intuition vous vient et hop, vous dites je vais faire ça et a priori ça va être beau et bon.
Mais je le sais d'avance et ça me prend 3 secondes. Quoi. Donc c'est insupportable.
Donc la vie est facile pour vous finalement.
C'est pas mal. Après, le problème c'est d'avoir trop de créativité et comment aussi.
Ça déborde ?
C'est vraiment bazar.
Dans la nuit,
vous
avez une idée.
Bah, n'importe. Mais c'est vraiment haute couture, vous avez vraiment raison. C'est ça qui est. Le défilé va arriver, on doit envoyer. C'est magnifique. Quoi.
L'artiste, sculpteur, chocolatier français Patrick Roger, vous êtes notre grand témoin du jour en ce lundi de Pâques et vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
On a de la chance parce qu'on a un package assez extraordinaire aujourd'hui. On parle certes de chocolat, on en a même là dans notre studio grâce à Patrick Roger, mais on a surtout un artiste, on a un sculpteur. On découvre vraiment les coulisses de cet univers assez magique, celui de Patrick Roger, artisan chocolatier, qui est notre grand témoin aujourd'hui jusqu'à 14h.
Et quand on adore le chocolat, il n'est pas rare de vouloir le déguster, le partager, en parler. Ainsi est née une association il y a 11 ans. Bonjour France Naoum Moati.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la présidente et la fondatrice de l'association Chocolatez-vous. Alors vous êtes une passionnée de chocolat. Vous aviez l'habitude de participer à des conférences sur le chocolat. Je crois que ça remonte même à l'enfance, hein, cette passion, parce que vos arrière-grands-parents étaient chocolatiers à Bayonne, c'est
Tout à fait. Tout à fait. Ce sont les Juifs qui ont quitté l'Espagne au moment de l'Inquisition et qui se sont installés à Bayonne et à Bordeaux. Et mes ancêtres étaient chocolatiers à Bayonne. Et mon oncle m'a retrouvé les extraits de naissance où, effectivement, il était bien mentionné qu'ils étaient chocolatiers à Bayonne.
Alors, on l'entend, on le voit, vous êtes une passionnée du monde du chocolat. Mais comment on en vient à créer son association ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se dit « Bon, je ne dois pas être la seule comme ça, j'ai envie de faire partager ma passion. »
Alors, au départ, j'ai voulu adhérer à des clubs de chocolat. Et j'ai essayé un petit peu de chercher ce qui existait. Je suis tombée sur, à mon avis, le seul club qui existait il y a 25 ans à peu près. Et là, lorsque j'ai frappé à la porte, on m'a expliqué que, ne connaissant personne dans le milieu, il fallait être parrainé.
Ah oui, même dans le chocolat, il faut avoir des parrains.
Voilà. Et donc, moi, ça m'a paru très étonnant. Et donc, j'ai laissé tomber. Ensuite, en faisant des recherches, j'ai trouvé des conférences qui parlaient donc sur le chocolat. Et c'est là où j'ai découvert Patrick Roger pour la première fois.
Ah oui, donc vous étiez très avant-gardiste, vous l'avez découvert avant le grand
public,
j'ai envie de dire.
Ah oui, tout à fait. Ça faisait au moins 20 ans qu'il était à ses débuts. Et j'ai suivi pendant pas mal d'années des conférences sur le chocolat.
Alors, qu'est-ce qu'on y fait maintenant à Chocolatez-vous ?
Alors maintenant, on a l'habitude donc de déguster des chocolats. Donc ce n'est pas du tout commercial. C'est uniquement une association de personnes passionnées, très conviviale. On est une petite association, mais on a de nombreuses personnes qui ne sont pas membres, qui viennent occasionnellement participer à ces dégustations. Et on va le soir chez les chocolatiers à la fermeture et on fait les dégustations chez les chocolatiers. Lorsqu'on avait commencé, on faisait ça souvent dans les restaurants et les chocolatiers venaient. Et puis on s'est rendu compte que le but n'était pas d'aller dans les restaurants,
c'est encore mieux
mais
d'être...
plus chez les chocolatiers.
Alors vous, c'est quoi votre chocolat préféré? Puisque quand on a une telle expérience, qu'est-ce qui vous plaît le plus?
Allez-y, lâchez-vous.
Alors, le meilleur, pour moi, il n'y a pas un meilleur chocolat, parce que chaque chocolatier peut avoir un chocolat qu'on apprécie plus chez l'un que chez l'autre.
Moi, personnellement, je ne fais pas la distinction. Je n'ai pas encore ce palais. Je crois qu'il y a un palais pour le chocolat.
Oui, ça s'affine. Voilà, à force de déguster, on devient plus expert, entre guillemets, dans le chocolat. Moi, ma priorité, ce sont surtout des chocolats d'origine, pas des assemblages, qui sont choisis, les chocolats du Pérou, les chocolats du Venezuela, de Bolivie, voilà, qui ont chacun un caractère particulier, soit plus fruité, soit plus végétal.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour vous, le chocolat, c'est vraiment un vrai aliment qui fait partie quasiment du repas, parce que je crois que dans l'association, vous faites aussi beaucoup de dégustations à corps mets vins, avec des vins, avec du fromage également, je crois, parce que tout
voilà.
Ça se marie très bien.
Alors, on a fait pas mal de dégustations, vin et chocolat, thé et chocolat, rhum et chocolat, whisky et chocolat. Et il y a deux jours, nous avons dégusté les accords fromage et chocolat. Chose très surprenante.
Ouais.
Et les accords étaient tellement bien choisis que c'est très bien passé. Et on a dégusté comme un sandwich, c'est-à-dire qu'on a posé le fromage sur le carré de chocolat.
Pourquoi pas? Patrick Roger, vous êtes notre grand témoin du jour, artiste, sculpteur, chocolatier. Quand vous écoutez la France nous parler de sa passion pour le chocolat, ça vous inspire quoi?
De manger.
Du fromage ou du chocolat?
On va finir l'émission avant.
Ouais,
parce qu'on va avoir la bouche un peu pâte aussi. Ouais.
Du fromage ou du chocolat? Non, je plaisante.
C'est vous... tout vu, là.
Vous organisez, vous aussi, des ateliers?
Pas trop.
Non.
Non. Déjà, c'est notre vrai métier, finalement, c'est de passer au magasin les chocolats. Et surtout, c'est le niveau des clients qui est extraordinaire.
C'est-à-dire
ils sont quasiment plus forts que nous.
Tiens, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ils sont encore plus habitués. Quand ils entrent chez vous, ils connaissent quasiment par cœur votre gamme, mais même les différents chocolats?
Complètement. Ils ont une culture qui est vraiment... Souvent, j'ai tendance à dire, on s'en fout des clients. Parce que je suis le plus grand client. Je mange 500-600 grammes de chocolat par jour, peut-être un kilo
c'est
même.
Vrai mais vous êtes tout fin.
Ouais, mais non, ils se foutent de ma gueule parce que j'ai pris du gras. Un peu.
On va dire que c'est le bon gras alors.
Ouais, c'est le bon gras. Mais non, le niveau des clients est exceptionnel. Ils ont une culture et surtout, avec toutes ces années, nous, ça fait 25 ans qu'on est sur Paris. Et c'est vraiment ça, comment on a transféré la culture, c'est ce que je disais. Pourquoi la bourgeoisie s'approprie le cubisme? Pourquoi on aime Picasso aujourd'hui?
Et ce qui est génial, du coup, j'imagine, dans votre œuvre de création à vous, c'est que ça vous permet d'être extrêmement innovant parce que le public peut suivre. Quand on est habitué, quand on connaît le chocolat, vous pouvez sûrement leur proposer des assemblages très étonnants parce qu'ils vont avoir envie de nouveautés.
Ouais, alors je reste sur une culture qui est extrêmement simple, il faut faire attention. Par exemple, le praliné chez nous, qui est quand même vraiment sans doute un des best-sellers, c'est simplement du sucre et des amandes. Donc ce qui est super intéressant, je suis paysan aussi, donc ce qui compte c'est comment on produit nos amandes, comment on va s'approvisionner, et bien sûr le process de fabrication il est fondamental. On peut avoir la même amande, ou des choses plus simples, on va tous cuire un œuf par exemple, chacun aura sa vision, c'est comme un amour.
France Naoum Moati, vous êtes la directrice de l'association Chocolatez-vous. Bon allez, chocolat noir ou chocolat au lait? Parce que c'est toujours la grande question.
Chocolat noir.
C'est ça le vrai chocolat.
Et vous Elisabeth, c'est quoi?
Mais moi j'avoue, c'est le chocolat au lait.
Moi c'est le chocolat noir.
Ça s'appelle Chocolatez-vous. Merci à vous France Naoum Moati d'être venue nous parler de votre passion pour le chocolat et de votre association.
Bah, c'était un plaisir de partager avec vous cette passion.
Eh bien, merci beaucoup et Patrick Roger. On vous garde encore, vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et comme chaque jour, on est très heureux de vous accueillir avec Elisabeth à la table de cette France Bouge, en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h avec notre grand témoin du jour, le chocolatier, le sculpteur, l'artiste Patrick Rogéen. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, j'espère qu'on a réussi à vous faire passer justement la passion de Patrick Rogéen pour l'innovation. Alors, vous l'avez dit plusieurs fois depuis le début de l'émission, Patrick Rogéen, vous êtes agriculteur, vous aimez la terre, vous êtes producteur. D'où viennent aujourd'hui les chocolats que vous vendez chez Patrick Rogéen ? La fève de cacao, elle vient d'où ?
Alors, on a 10 fournisseurs qui vont fabriquer ce qu'on appelle le chocolat de couverture. Mais au départ, il y a 47 pays producteurs dans le monde. Donc, évidemment, on va aller chercher plutôt des micro-niches et essayer de développer, entre autres avec des ingénieurs, et par exemple chez Valrhona.
Qui est un des grands noms du chocolat en France.
Qui est des grands noms dans les couverturiers, surtout. Qui vont nous... Bah, comme le boulanger ne fabrique pas sa farine. Alors aujourd'hui, il y a quand même une mode sur le bean-to-bar où on torréfie et puis on conche. Mais si on n'a pas une ingénierie qui est super forte derrière et un process industriel, c'est vraiment super dur de sortir des chocolats qui sont d'exception.
Mais c'est en cela où c'est capital d'avoir le bon produit au démarrage.
Ouais, et le process. Pour moi, c'est vraiment le process, c'est la façon de faire. C'est
la vision. Le process, c'est quoi ? C'est avec les mains ? C'est avec des machines ? C'est quoi ?
D'abord, c'est le cerveau. Mmh. C'est quelle façon ? Ben, pour un vigneron, c'est exactement la même chose. C'est comment on vinifie. Et nous, c'est comment on va torréfier, comment on va récolter, le post-récolte. Et qu'est-ce que l'on veut comme produit à la fin ? Et c'est comme une table de mixage aussi. Moi, je vais donner mes... Donc, je viens du sport mécanique. Donc, quand tu es pilote, tu donnes à tes ingénieurs les informations de la moto, dans mon cas, et puis ce qui va pas, et là ça va être la même chose, c'est vraiment une table de mixage où on va dire on veut plus pyrazinique, on veut un peu plus acide, on veut moins, et des notes qu'on va extraire aussi. Moi, mon travail, c'est vraiment d'extraire toutes les notes que je trouve désagréables, et j'en ai un paquet, quoi.
C'est quoi les notes désagréables pour vous?
Si j'aime pas un chocolat, quel goût de chocolat?
C'est marrant,
quoi, le goût de chocolat?
Bah oui, c'est quoi alors?
Et c'est à partir de là où ça commence à devenir intéressant.
Mais ce qui est marrant de ce que vous dites, c'est qu'avant toute chose, vous pensez à vous. Vous avez envie de vous faire plaisir à vous dans ce que vous proposez à vos clients?
Complètement, c'est extrêmement égoïste. D'abord, c'est ce que je disais, donc je suis le premier client, et cette force de se faire mal aussi, d'aller à manger énormément. Et si on a la justesse du goût, tout simplement, on va pouvoir consommer beaucoup, et c'est vraiment l'équilibre qui va se faire. Et ça, c'est à quel prix?
Patrick Rogéen, c'est quoi votre produit phare, si on devait en choisir un?
Je pense qu'en termes, vraiment, c'est le praliné aujourd'hui, avec les amandes et les noisettes. Donc ça, c'est le premier chocolat que j'ai fabriqué sur la table de la cuisine. Puis peut-être qu'on pourrait coller quand même le deuxième avec l'hémisphère. Mais ça, c'est plus par rapport où on a apporté la couleur.
Comment on en vient à apporter la couleur quand on est chocolatier? Du cerveau, mais ça arrive comment dans votre cerveau?
C'est une grande question, et c'est surtout que vous me posez des questions, parce que moi, je ne me suis jamais posé de questions pour tout ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait des concours et ça a démarré comme ça, je crois, tout doucement. Mais c'est un cheminement, comme je disais, c'est très très long.
Vous disiez tout à l'heure, je sais aussi maintenant bien gérer une entreprise. C'est-à-dire que je suis aussi bien producteur, mais j'ai aussi appris la gestion, le développement et tout.
C'était inné, ça.
C'était inné, ça aussi. Et du coup, c'est indispensable quand on vit une année cataclysmique comme celle que vous venez de traverser. Je crois que vous avez perdu 4 millions d'euros ?
Ouais, c'est ça, sur les boutiques, 85 000 clients, donc un Stade de France ou un gros vélodrome, quoi. C'est vraiment très très dur à s'en sortir, avec une chance extraordinaire, c'est d'avoir des banquiers aussi. J'ai toujours eu la chance que les banquiers me suivent. Mais là, ça commence à vraiment... C'est craignos, quoi. Vraiment.
C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que là, les banquiers vous disent « t'es gentil, mais il va falloir faire rentrer un peu plus d'argent ?»
Non, mais j'avais une dette qui était environ de 7-8% par an, le niveau d'emprunt. Et puis, d'un seul coup, on se retrouve à 20% à cause du PGE. Et tout simplement,
le prêt garanti par l'État. Oui.
Complètement. Et on n'a pas remboursé, surtout l'emprunt en cours de cette année.
D'avant la crise.
Et là, quand on commence, c'est bien gentil, la dette. On peut repousser la dette, ça, c'est pas très grave. Mais il y a quand même une limite, je pense, sur le volume de la dette. Et surtout, c'est que notre activité... Même l'année dernière, on a fait 10% de notre chiffre d'affaires sur les boutiques à Pâques. Par contre, tout le mécanisme continue à fonctionner. Donc le chômage partiel, c'est bien gentil. Mais, en gros, on a 2,9 millions de salaires. Et là, on est passé à 2,7 millions en perdant 4 millions. Et ça tombe plus rond, quoi. Et là,
Est-ce que malgré tout, vous êtes... Je crois que vous dites souvent, dans plusieurs interviews qu'on a lues de vous avec Elisabeth, vous dites « je suis un optimiste ». Je pense quand même toujours que demain va être meilleur que le jour d'avant. Est-ce que justement vous vous dites que là on n'a envie que d'une chose, c'est de se faire plaisir en ce moment.
Ouais, alors...
Et vacciner aussi.
Ouais, mais moi, dans ma vie, ben, tous les jours, je ne veux pas dire que ça n'a pas changé. Là, j'ai un masque, simplement j'ai le masque. À l'atelier, je ne fais que de manger, donc je n'ai pas de masque. Mais ma vie n'a pas fondamentalement changé.
Ce qu'on mais voit, vos c'est clients, les clients. Vous sentez cette envie qu'ils ont de se faire plaisir. D'habitude, ils seraient peut-être arrivés pour la petite boîte, puis ils se disent, bon allez, il y en a marre, il y a besoin de se faire plaisir, je prends la grosse ce coup-ci.
On a surtout le panier qui a un peu augmenté.
C'est-à-dire
le panier moyen a un petit peu augmenté, mais on a perdu pas mal de clients.
Ouais.
Pour la partie chocolaterie, si on prend le boulanger ou le pâtissier, il y a eu beaucoup plus de reports. Évidemment, l'industrie, la GMS, ils ont...
La grande distribution. Ouais.
Et concernant le digital, là aussi, vous aviez tout à apprendre. Vous n'étiez pas complètement au fait de tout ça avant la crise. Comment vous vous êtes organisé et adapté?
On avait déjà un petit e-shop depuis des années où ça traînait, c'était vraiment compliqué. Et puis, avec Mathilde, on a mis, surtout elle...
Mathilde
ouais, c'est d'abord, elle est ingénieure au départ. Et puis, jeune demoiselle aussi, donc les nouvelles technologies, elle les maîtrise bien, bien plus fort. Et l'e-shop a fait 335%. Et la chance que l'on a, c'est de créer l'ensemble de cet univers. Et on crée notre propre univers. Ça, c'est fantastique, quoi.
Patrick Roger, dans La France Bouge, chaque jour, nous découvrons une marque, mais aussi un endroit, l'histoire qui fait la fierté de notre pays. On va s'attarder sur une marque qui a traversé des générations. Alors, on est un peu éloigné du chocolat, comme
pas
le disait
pas que, quand même.
Emmanuel, mais tout de même, c'est Cacolac. Cacolac, ça existe depuis 1954. C'est né à Léognan, en Gironde. Vous connaissez, j'imagine ?
Non.
Vous
c'est
connaissez
vrai
pas Cacolac ?
Vous connaissez pas Cacolac ?
Non. C'est boisson chocolatée ?
Vous connaissez pas ou vous n'avez jamais goûté ?
Ah non,
ou les deux ?
Ah bah, les deux.
C'est vrai ?
Ah ben j'ai des tares. Hein.
Voilà, justement, vous allez la découvrir.
On a vraiment choisi le meilleur des produits. Alors, Cacolac, c'est la saga du jour dans La France Bouge, racontée aujourd'hui par Charlotte Barrican.
Europe 1, La France Bouge, la saga.
L'histoire de Cacolac commence en 1947 avec deux familles de laitiers, les Lozègues et les Lanneluc. Leur but à l'époque était d'approvisionner la région bordelaise en lait. Mais un voyage aux Pays-Bas change la donne. Là-bas, on commercialise une boisson au lait chocolaté. Les fondateurs décident alors de proposer la même chose, mais en France. Et le succès est vite au rendez-vous. Christian Maviel, président de Cacolac.
Quand ils ont trouvé cette idée, ils l'ont déclinée à la française. Et après, elle s'est déclinée même en yaourt. Ils appelaient ça la Cacolac. Cacolette, c'était une crème dessert au chocolat, donc il y a eu plein d'émanations de la recette Cacolac à boire autour des années 50. Le Cacolac, la nouveauté, a été présentée dans les foires, dans les salons, au niveau régional au début, et c'était la récompense pour les enfants le dimanche. Quand ils avaient été sages la semaine, voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui encore.
Dans les années 70, la marque abandonne la partie fromage frais et yaourt pour se concentrer seulement sur la boisson qui fait son succès. D'abord conçue pour être vendue dans les bars, dans une bouteille en verre, Cacolac est rapidement déclinée en canette pour rendre la boisson plus nomade.
C'est majoritairement du lait aromatisé au cacao. Et puis, depuis cette année, c'est une grosse nouveauté, on élargit de la fraise, de la vanille, du caramel, du praliné. Voilà. On essaye de rester gourmand mais sain autour du chocolat. Alors Cacolac reste une entreprise purement familiale, implantée effectivement historiquement, aujourd'hui à Léognan, à côté de Bordeaux, avec du lait, 80% du Lot-et-Garonne, 20% des Deux-Sèvres. Donc on privilégie le sourcing proche et dans notre belle région.
Cacolac, c'est 20 millions de canettes vendues tous les ans. La marque s'adresse à un public d'ados et d'adultes. Mais les plus petits ont maintenant leur premier Cacolac, une briquette prête à boire avec une paille. L'entreprise ne cesse d'innover, nouveaux produits, nouveaux emballages, nouvelles saveurs. Mais toujours un seul mot d'ordre, rester français et familial.
C'est un combat de tous les jours. C'est pas facile tous les jours non plus. Tous les ans, il y a les négociations qui redémarrent et on n'est pas à l'abri d'une perte de clientèle. Mais on travaille à se renouveler, à apporter de la nouveauté et rester familial aujourd'hui, effectivement, ça fait super plaisir.
Aujourd'hui, 80% des ventes de Cacolac se font en grande surface. L'entreprise a connu une croissance de 15% en 2020 et va sortir très prochainement un Cacolac goût tropical.
Eh bien, décidément, il y a de l'innovation du côté de chez Cacolac. C'était la saga du jour racontée par Charlotte Barrican. Vous, chocolat chaud, tout ça, vous aimez pas ça, donc vous en vendez pas.
Ouais, c'est pas trop ma tasse de thé.
C'est le moment de le dire.
Mais Patrick Roger, vous allez vous diversifier vers ces choses-là dans le futur ou vous allez rester sur ce que vous savez bien faire, c'est-à-dire les sculptures de chocolat.
Oui, il y a la sculpture chocolat, il y a la sculpture en métal surtout. Mmh. Ça, vous n'en voyez pas grand-chose. Mmh. C'est difficile à voir, mais c'est surtout demain comment on continue à travailler. Et on pourrait prendre le cas de Jean-Paul Gaultier, par exemple. S'il n'avait pas eu le parfum, la haute couture n'aurait pas pu continuer.
Ça, c'est certain.
L'enjeu, ou Robuchon. Mmh. Robuchon, quand il a travaillé sur le jambon industriel, bah c'est comme ça qui aussi ça fait évoluer le groupe. Donc il faut vraiment.
Donc vous cherchez votre pas de côté, quoi.
Ouais, bah c'est bien sûr, on aurait très bien pu avoir un chocolat chaud, c'est possible, ou signer au moins avec une marque, parce que tout simplement il faut faire vivre nos fournisseurs, nos.
Mais là, de ce que vous dites, clients. Vous ne vous interdisez plus de le faire. Vous
dites mais que... j'ai jamais dit, mais après ça se fait pas parce qu'aujourd'hui le vrai enjeu il est économique et sociétal quoi.
On va continuer à en parler avec vous Patrick Roger. Tiens, vous vous intéressez aussi aux jeunes entreprises, aux talents de demain?
Eh ben, j'aime ça, ouais, ceux qui ont du talent.
Ben alors, ça tombe bien.
Ça tombe bien parce que vous allez porter votre casquette d'entrepreneur avec le pitch de La France Bouge.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et en ce lundi de Pâques, bien sûr que La France Bouge et bien sûr que c'est l'heure des trophées Europe 1 à La France Bouge. Chaque jour, une entrepreneur ou un entrepreneur nous livre son projet et tente de convaincre déjà notre grand témoin du jour, en l'occurrence aujourd'hui Patrick Roger, l'artisan chocolatier. Et puis Nathalie Carré, de la Cécile France, qui est également avec nous.
Bonjour Amélie Coulombe.
Bonjour.
Vous avez 36 ans, vous êtes marseillaise et vous êtes la fondatrice de Crocola. Crocola, c'est pour que les enfants sachent reconnaître le bon chocolat, c'est un peu ça. Vous avez travaillé chez Haribo et justement, quand vous avez eu vos enfants, vous avez quitté cette entreprise pour entamer une formation de CAP chocolatière. Eh ben tiens, je vais vous laisser nous expliquer ce que propose Crocola. Vous savez comment ça marche?
Oui.
C'est parti pour votre pitch, vous avez une minute.
Merci. Alors en fait, quand on s'intéresse de plus près au chocolat pour enfants, on constate que les parents sont souvent tiraillés entre leur conviction sur le bien manger et en même temps leur envie de faire plaisir à leurs enfants. 80% disent ne pas forcément avoir confiance en la qualité des produits. Et en fait, avec Crocola, j'ai eu envie de proposer une vraie alternative pour initier les enfants au bon chocolat avec des produits meilleurs pour eux et également pour la planète. Donc on est sur une composition 100% naturelle, bio, une fabrication artisanale également en Provence, des recettes qui sont gourmandes, bien sûr, avec un juste dosage de cacao et de céréales pour participer à l'éveil au goût. À l'intérieur des packagings, on va retrouver en fait tout un contenu ludo-éducatif pour vraiment faire découvrir l'univers du chocolat aux enfants et les sensibiliser à la protection de l'environnement. On a également une approche éco-responsable globale avec des ingrédients issus du commerce équitable et des emballages en carton recyclé. Donc pour l'instant, Crocola, c'est une gamme de 3 tablettes qui sont disponibles du coup dans les magasins Monoprix et Monop et également sur le site crocola.fr.
Voilà, déjà bravo pour ce pitch. J'ai donné le prix parce que comme à chaque fois, personne pense à dire combien ça coûte. Donc vous l'avez dit, vous êtes vendu chez Monoprix et ça c'est super pour vous. Déjà bravo.
Merci.
C'est 3,99€, c'est ça la tablette?
C'est ça, tout à fait.
Alors Amélie, bravo pour votre pitch. Chaque jour, Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, analyse les dossiers, analyse les candidatures. Et là justement, je crois qu'elle a 2-3 choses à vous dire. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Amélie,
bonjour
Emmanuel. Alors 4 points positifs. D'abord, Crocola, c'est plus que du bon chocolat. C'est l'éducation du goût des enfants et ça, c'est important. Deuxième point, le design très coloré, très adapté aux jeunes enfants et les coffrets qui font un très beau cadeau. D'après les avis, le goût est bien adapté au palais des enfants. Et puis les ingrédients, 4 seulement. Juste qu'il faut pour faire un bon chocolat. Alors les points améliorés, plutôt des suggestions. Vous pourriez peut-être imaginer un parcours éducatif du goût par une évolution de la puissance du chocolat, car pour les enfants qui mangent des chocolats très sucrés, le palais a besoin d'être habitué à des goûts différents, il faut donc y aller progressivement. Puis vous pourriez étendre l'éducation du goût des enfants à d'autres produits sucrés, comme les gâteaux ou les céréales. Et puis enfin, peut-être faire une version ado et adulte avec des designs différents pour que toute la famille en profite.
C'est très intéressant ce que nous dit Nathalie Carré sur ce parcours éducatif du goût et peut-être davantage segmenter, s'adresser aux enfants, puis aux ados, puis aux adultes pour que tout le monde puisse se réunir.
Oui, tout à fait. Merci pour ces retours. En effet, c'est très intéressant. Et comme vous le dites très justement, je pense qu'il faut y aller progressivement. C'est pour ça aussi que je n'ai pas proposé uniquement des chocolats noirs avec un très fort pourcentage de cacao dans l'offre. Il y a également du chocolat au lait, donc un produit plus abordable pour les enfants, mais avec un taux de cacao bien plus élevé que la moyenne. Donc on est à 41%, mais on reste sur un produit qui est très gourmand, qui est vraiment accessible et qui permet du coup de de les initier au bon chocolat, même à travers du chocolat au lait.
Alors moi, j'ai peut-être une question complètement idiote, oui. mais parce que je suis papa d'une petite fille qui a 3 ans, elle ne mange pas encore vraiment des tablettes de chocolat, mais elle mange du chocolat. Et je me disais, est-ce que le format tablette, ça ne peut pas lui faire un peu peur au démarrage, les
carrés? Surtout à vous, hein.
Oui, surtout, comment
oui.
ça à moi?
Bah, ça peut vous faire peur à vous parce que c'est une grande tablette, c'est,
oui,
pas, le, c'est pas le petit morceau.
Alors, il y a plusieurs points. Déjà, il y a le point de la texture. Donc là, j'ai vraiment travaillé sur une tablette fine, déjà pour qu'on soit sur une texture pas trop épaisse et pas trop dure à croquer pour les petites dents des enfants. Et également, le format tablette qui est un peu spécifique, sous forme de barre prédécoupée, ce qui permet d'avoir ce fait, de pouvoir portionner aussi par petites barres de 10 grammes pour les parents et d'avoir aussi le côté ludique pour les enfants. Puisqu'ils vont retrouver en fait en sous forme de marquage le nom des petits animaux et les empreintes des animaux de la forêt tropicale
tout
sur les tablettes. Tout un univers.
Patrick Roger, vous êtes notre grand témoin du jour. Des chocolats pour enfants, ça vous inspire quoi, Crocola?
Nous, c'est évident, la succession. Et demain, notre public, c'est les enfants. Et on le voit sur les magasins. Les gamins qui ont entre 15 et 20 ans, on a beaucoup de clients qui ont entre 15 et 20, moins de 30 par exemple à la Madeleine, c'est extraordinaire, et ils vont dire à leurs parents, mais vous ne connaissez pas Patrick Roger par exemple, et c'est là l'intérêt, peut-être que même les enfants ou les ados vont plus vite que les adultes.
Mais c'est vrai que peut-être les éduquer au goût, parce que c'est très différent, j'imagine votre chocolat, on ne l'a pas goûté encore, mais entre ça et on avait rien Kinder, parce que c'est ça que vous essayez d'enlever de nos tiroirs et de nos placards. Vous aussi, c'est très avantageux pour vous que des gens aient ce genre d'idée pour habituer nos palais aux produits que vous vendez finalement.
C'est la richesse de notre pays et de notre savoir-faire, de notre savoir-vivre aussi. C'est culturel, c'est quasiment inné et après c'est à nous évidemment de travailler dessus. Alors face à l'industrie lourde, il faut imaginer que Mars fait en 8 heures ce que nous on fait en 50 000 heures.
Ouais. C'est ça.
Ouais. Et donc
c'est intéressant ce que dit Patrick Roger, Amélie Coulon, parce que c'est votre grand défi à vous aussi. Vous dites que dans vos besoins, vous avez besoin de vous faire connaître parce que face à vous, vous avez des mastodontes qui, hop, allez, déroulent.
Oui.
Et donc, il faut trouver sa petite place.
Ah, bien sûr.
Bah, sa grande place.
Vous allez vous faire racheter, pourquoi
c'est
pas
tout le...
Pas déjà, quand même.
Bah, alors, non, c'est pas l'ambition.
Non, mais il y a des start-upers qui, parfois,
j'ai envie
pour pouvoir se développer.
Oui, tout à fait. Après, j'ai envie, pour l'instant, de garder cette dimension artisanale et de proximité avec mes consommateurs. Donc, l'idée, c'est de rester aussi une structure à taille humaine. Et effectivement, tout le challenge, c'est d'émerger dans un marché qui est vraiment dominé par les gros groupes.
Ça s'appelle Crocola. Merci à vous, Amélie Coulon, d'être venue nous présenter vos très très jolies tablettes. Elles sont jolies, j'imagine qu'elles sont très bonnes. Hein, cette marque
Merci
qui initie les enfants au bon chocolat.
Et si vous aussi, vous avez comme ça un projet d'entreprise que vous voulez venir le défendre, c'est très simple. Vous nous envoyez un mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Patrick Roger, vous restez encore avec nous quelques minutes pour la suite et la fin de notre émission, si vous le voulez bien.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
La France bouge, suite et dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec notre grand témoin du jour, le sculpteur, l'artiste, le chocolatier, Patrick Roger.
Et dernière partie de l'émission avec Demain au travail. Oui, parce que notre monde bouge, nos entreprises aussi, hein, c'est chaque jour. Nous contactons une entreprise qui améliore la qualité de vie de ses salariés comme vous. Bonjour Christelle Jax.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Merci à vous. Vous êtes manager de la transformation des processus d'ingénierie chez...
C'est un de ces titres, ça.
IDEMIA, ça c'est un gros titre pour la carte de visite.
Ah, dis donc, manager de la transformation des processus d'ingénierie, il fallait le trouver.
IDEMIA, c'est spécialisé dans les technologies biométriques. Vos clients, ce sont des entreprises publiques mais aussi privées. 15 000 collaborateurs partout dans le monde. Et comme beaucoup d'entre nous, vous travaillez sur des projets communs avec des groupes de personnes qui ne se voient pas, qui ne se rencontrent pas à travers le monde. Et donc pour mener à bien ces projets, vous avez utilisé les services d'une start-up, Ubiqui, qui propose une solution, un logiciel en quelque sorte de ce travail collaboratif à distance. De quoi s'agit-il ?
Ubiqui est nous propose une application qui est accessible avec un navigateur web et qui nous offre un cadre de travail collaboratif, vous savez, de type tableau blanc virtuel. Donc, où vous pouvez poser des post-it de toute forme et de toute couleur. Alors, comment ça marche? Chaque participant de session de travail crée des post-it, les pose sur le tableau virtuel. Ensuite, ils peuvent, de manière simultanée, les lier entre eux, les regrouper, changer les couleurs, les formes, etc.
pour pouvoir se mettre d'accord sur les dossiers. C'est par exemple un qui a une compétence particulière sur un dossier, il va faire comme si on avait un frigo, un réfrigérateur, il va mettre le post-it, tiens-moi là-dessus, sur cette compétence-là, je peux apporter quelque chose. En gros, c'est ça ?
Exactement. Et ça nous permet un vrai pilotage des projets à distance, en multi-équipe.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, du coup, le brainstorming, il est exactement comme si on était ensemble, parce qu'il y a un côté, je vais utiliser le mot de ludique, je ne sais pas si c'est vraiment ça l'idée, mais il y a quand même ça. En tout cas, c'est très participatif.
C'est extrêmement participatif, c'est très facile à utiliser. Donc, si je prends un exemple, chez Idemia, on a lancé très récemment un projet, par exemple, pour la Malaisie. Donc, un projet, c'est un assemblage d'expertise multi-équipe. Donc là, au lancement du projet, on a fait des réunions de brainstorming et de travail avec des équipes de Bangalore en Inde, de Casablanca au Maroc, des experts en France et bien sûr une équipe locale proche du client.
Quels sont les retours de vos salariés ?
Et les retours des participants sont excellents. Chacun contribue activement à la définition de la solution technique. Et ces sessions de brainstorming sont tellement bien appréhendées par les salariés que tout au long du projet, après, ils en redemandent et ils en créent eux-mêmes. Et c'est vraiment devenu une façon de travailler importante qui répond très bien aux attentes de nos clients.
Patrick Roger, vous êtes artisan chocolatier. Vous nous avez dit pendant toute cette émission que vous, votre imagination déborde sans arrêt. Vous avez sans arrêt envie d'innover. Une fois que vous avez l'idée, là, vous dites, tiens, je vais faire ce chocolat-là, cette sculpture-là. Comment vous transmettez votre idée à vos équipes et comment ça se passe, vos réunions de brainstorming chez vous ?
Alors, il n'y a pas de réunion.
C'est ça. Il n'y a pas de réunion.
Ça doit être simple quand même de travailler avec vous, non ?
Parce que vous êtes très solo.
Très. Et puis, mais c'est pensé, donc c'est déjà fait. Alors là, c'est le début des ennuis.
Parce qu'il faut
qu'ils imaginent ce que vous avez pensé.
Non. Ah, mais c'est déjà, on a la couleur, on a exactement le goût, la texture, je sais exactement tout. Mais c'est ton process, comment on va mettre le process. Les Américains ont mis pendant la guerre un programme qui s'appelle le PERT pour la guerre du Vietnam. Comment on va ordonnancer les tâches surtout. Et c'est ça, c'est la vitesse. Comment tu vas aller jusqu'au projet. Et c'est quelque chose, ça me rend hystérique.
Parce que vous n'arrivez pas à leur transmettre ce que vous voulez.
C'est lent.
Et ça va pas aussi vite que votre cerveau, c'est ça.
Bien sûr, mais ce qui est lent, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de contraintes aussi. Et donc ça, plus on alourdit, donc le créatif n'aime pas trop la lourdeur.
Déjà un grand merci à Christelle Jacques, un manager de la transformation des processus d'ingénierie chez IDE.
Patrick Roger, on était ravis de vous avoir dans La France Bouge. Très bon lundi de Pâques. Je rappelle que vous êtes artisan, chocolatier, sculpteur et on a aussi vu l'artiste que vous êtes. Merci à vous d'être venu dans La France Bouge.
Moi j'étais très heureux de vous retrouver Elisabeth, mais vous m'abandonnez, c'est ça déjà ?
Oui, bah voilà. C'est mon tour. C'est mon tour de prendre quelques jours. Je crois que demain, on va vous retrouver avec Carole Ferry.
Oui, et bah, du coup on vous dit pas le sujet. Il faudra écouter l'émission pour que vous soyez là, Elisabeth.
Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.